Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Comment lutter efficacement contre la tuberculose en RDC? Eh bien, nous en parlons ce matin avec notre invité, Dr Michel Kassoua, directeur du programme national de lutte contre la tuberculose en RDC. Il est avec nous dans ce studio, Dr Michel Kassoua, bonjour.
Bonjour Marcel.
Merci d'avoir répondu à notre invitation pour les conseils du jour. On va découvrir des astuces pour aider votre enfant à devenir autonome. Et ça sera avec jeudi Daniel Kachama. Voilà le menu pour le magazine Okapi Service de ce jour. Polydor Basunga est à la mise en onde. Jeudi Daniel Kachama réalise et coordonne ce magazine présenté par Marcel Ngomombala sous la supervision de Tina Salama. Bienvenue à tous.
Radio Capi vibre au rythme du Festival Amani du vendredi 15 au dimanche 17 février en direct du collège Mwanga de Goma.
Vendredi 15 février, Parole aux auditeurs sera diffusée en direct du site du festival à 12h05. Urban Scène à partir de 16h30, heure de Goma.
Samedi 16 février, retrouvez Urban Scène aux couleurs du Festival Amani à 12h10 et au Capi Métissage de 14h à 16h, heure de Kinshasa.
Enfin, le dimanche 17 février, au Capi Métissage clôture la série des directs au collège Mwanga de Goma de 13h à 15h, heure de Kinshasa.
Radio Capi en direct du Festival Amani depuis Goma, pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée.
En RDC, excusez-moi, c'est depuis l'année dernière que le programme national de lutte contre la tuberculose a été doté de cliniques mobiles. Ceci en vue d'intensifier le dépistage du cas de tuberculose au sein de la population congolaise. À ces jours, cette stratégie ou approche active a permis d'augmenter le nombre de personnes dépistées et d'assurer la prise en charge médicale. Excusez-moi, des personnes dont la maladie a été confirmée. Quel est l'impact réel de cette stratégie dans la lutte contre la tuberculose en RDC? Je le disais, pour en parler, nous avons dans ce studio notre invité, Dr Michel Kassoua, qui est directeur du programme national de lutte contre la tuberculose en RDC. Je rappelle le numéro des contacts. Si vous avez des questions, vous êtes intéressé, n'hésitez pas à composer les 081-890-63-94. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse service@radiocapi.net ou réagir aussi à l'adresse Facebook au Capi Service. Ah, docteur, la première question, si vous voulez nous parler, nous faire un peu l'état des lieux actuels de la TBC ou tuberculose en RDC.
Merci Marcel. Pour rappel, la RDC compte parmi les 30 pays qui portent le lourd fardeau de la tuberculose dans le monde. Nous sommes à la 9e place mondiale et 2e pays en Afrique, derrière l'Afrique du Sud. Nous avons une incidence totale des cas estimée d'environ 322 pour 100 000 habitants, ce qui représente à peu près 151 000 malades qui ont été notifiés en 2017.
Donc si on comprend bien avec ce chiffre, la tuberculose demeure encore un problème de santé publique en RDC.
Fort malheureusement, la tuberculose demeure encore un réel problème de santé publique. Au moment où nous écrivions à l'époque le plan stratégique national de lutte contre la tuberculose, un des objectifs majeurs était justement de réduire la mortalité de 20% par rapport au niveau de 2017, qui était de 66 pour 100 000 habitants. Et aujourd'hui, à la fin de l'année 2018, cette mortalité est estimée à 60 pour 100 000 habitants. Donc il y a eu quand même une réduction d'environ 10 points, mais cela n'est pas encore suffisant. Des efforts restent encore à faire pour pouvoir inverser les tendances de la maladie en RDC.
Nous l'avons évoqué, envie d'intensifier la lutte contre la tuberculose en RDC, surtout pour ce qui est des dépistages. Votre programme a bénéficié de cliniques mobiles. Expliquez-nous un peu, c'est quoi une clinique mobile?
Effectivement, l'intensification du dépistage de la tuberculose permet donc une utilisation optimale. D'abord, des outils de diagnostic qui existent déjà, comme la microscopie, comme la radiographie, mais surtout de mettre en œuvre une stratégie qu'on appelle le dépistage actif. Alors, contrairement au dépistage passif où le personnel soignant à l'hôpital attend que les malades viennent à l'hôpital, dans le dépistage actif, ce sont les services de santé qui se déplacent vers la population. Donc ces cliniques mobiles sont des outils qui nous permettent de pouvoir aller à la rencontre de la population, de pouvoir éliminer une barrière géographique qui limite l'accès aux soins, de pouvoir éliminer une autre barrière qui est la barrière financière qui limite l'accès aux soins, en offrant à la population des soins de qualité. Et donc, ces cliniques mobiles sont dotées d'appareils de radiographie digitale, numérisés, qui permettent une lecture automatique des clichés de radio, mais aussi sont dotés de GeneXpert. C'est une machine au laboratoire qui permet le diagnostic rapide et précis de la tuberculose en 1h52.
Donc, c'est bien équipé, hein, ces cliniques mobiles, là, si je comprends
donc, ces
bien
cliniques ça. Mobiles sont super équipées, car elles permettent non seulement de procurer aux malades la dernière technologie actuellement de pointe en termes de radiologie. Vous avez une radio numérique qui prend une image et cette image est lue par un logiciel qui est automatisé et vous donne le résultat quasi instantanément. Et au-delà de cela, ça nous permet aussi de pouvoir avoir les preuves bactériologiques de la maladie, parce que les crachats ainsi recueillis peuvent être examinés par biologie moléculaire, qui est la technique aujourd'hui la plus sensible pour détecter la tuberculose.
Vous avez parlé du dépistage actif avec ces cliniques mobiles. Alors concrètement sur le terrain, quels sont les résultats? Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les endroits qui ont été ciblés pour ce dépistage actif et puis une idée sur le résultat?
Ok, actuellement, ces cliniques mobiles ont pu voyager dans toutes les provinces environnantes de Kinshasa. C'est-à-dire, elles sont allées donc dans le Kwilu, dans le Kwango, et aussi au niveau du Congo central. Au moment où je vous parle, elles sont actuellement au niveau de Boma, revenant de Kimpese, et elles vont arriver jusqu'à Mwanda. Et leur chemin retour, ils vont aussi, avant de rentrer sur Kinshasa, elles vont passer sur Kasangulu. Donc, après la mise en œuvre donc de ces cliniques, nous pouvons dire que au total, au moins 5000 personnes dans ces différentes provinces ont pu être screenées par les
screenées, c'est-à-dire
ont pu être examinées, oui, par les différentes équipes qui arpentent les routes de la RDC. Et au total, sur ces personnes qui ont pu être examinées, un peu plus d'un million, un millier de radios ont été réalisés et nous avons pu détecter 93 malades additionnels qu'on appelle des cas manquants, c'est-à-dire des cas qui se trouvent dans la communauté que nous n'aurions pas pu détecter si nous n'avions pas utilisé cette approche active.
Donc c'est une approche qui vous permet de vous approcher de la population et puis d'aller les dénicher, hein, là où ils se trouvent pour arriver à dépister, parce que vous dites souvent l'avantage par rapport à la tuberculose, lorsque vous êtes dépisté et que vous avez la maladie, il y a le traitement qui est gratuit.
Tout à fait. Rappelez-vous le slogan de notre dernière journée mondiale, recherchez les cas de tuberculose partout où ils se cachent. Donc avec cette approche active, nous arrivons à aller rechercher les cas de tuberculose dans la communauté et pouvoir leur offrir un traitement qui est adéquat. Et comme vous l'avez dit, le traitement de la tuberculose, je le rappelle, est gratuit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.
Je rappelle à ceux qui viennent de se joindre à nous sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine, Okapi Service. Nous parlons aujourd'hui de comment lutter efficacement contre la tuberculose en RDC avec notre invité, Dr Michel Kassoua, qui est le directeur du programme national de lutte contre la tuberculose en RDC. Si vous avez des questions, vous êtes intéressé, n'hésitez pas à composer dès maintenant les 081-890-6394. Vous pouvez aussi réagir à l'adresse service@radiocapi.net ou sur la page Facebook Okapi Service. Alors, docteur, vous avez parlé des cliniques mobiles qui ont pu actuellement faire des bons résultats pour ce qui est des provinces environnantes de la ville de Kinshasa, mais le pays est vaste. Vous n'avez pas beaucoup de ces véhicules de cliniques mobiles.
Selon la cartographie qui a été faite par le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre la tuberculose, en fait, les quatre axes ont été définis. Oui. Donc il y a l'axe ouest qui comprend la ville de Kinshasa, les provinces du Kwilu, du Kwango, le Congo central, l'axe centre avec la province du Kasaï oriental et les ex-provinces du Kasaï oriental, l'axe nord avec Maniema, l'Ituri, le sud et le nord Kivu, et puis l'axe sud-est avec l'ex-Katanga. Actuellement, nous sommes en train, c'est vrai, nous sommes confrontés à un défi logistique pour faire parvenir ces gros véhicules qui font à peu près 4 mètres de long, hein, et 4 mètres de haut et 6 mètres de long, de les faire arriver jusque pour les trois autres axes, mais les contacts se poursuivent pour que rapidement ces véhicules parviennent à leur site de destination.
Docteur, on revient à vous, docteur Letton, pour nous d'accueillir le premier auditeur qui est en ligne, Hugo, qui nous appelle de Canada. Bonjour Hugo.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité, c'est Hugo Ingopa et à partir de Kananga. J'avais quelques petites questions de curiosité que je voudrais poser à notre invité.
Allez-y.
Il va m'excuser franchement si je suis hors sujet de ce qu'il a, de ce qu'il venait de parler. Alors, la première question était celle de savoir, docteur, quelle est l'importance des cesses d'été qui sont implantées dans différentes provinces et dans les différents coins de la République? Parce que vous avez parlé que les diagnostics, on peut les faire, je ne sais pas, même à l'hôpital, soit là où le médecin est en train d'attendre les malades. Mais quelles sont alors l'importance des cesses d'été qui sont implantées dans différents coins de la République? Alors, la deuxième question est, je voulais demander, quand est-ce qu'on peut parler d'une tuberculose multirésistante? Il peut dire aussi avec ça. Je vais citer par la troisième question. Pour quelqu'un qui venait de prendre les antituberculés, ou soit les tuberculostatiques, à quel moment on peut dire que cette personne a été guérie, ou soit la maladie n'est plus chez cette personne? Merci beaucoup, monsieur.
Merci, Hugo, d'avoir appelé de Kananga. Platini Mbombo, vous êtes à Mbandaka. Bonjour, Platini.
Platini Maputo, bonjour. Bonjour, les invités. Bonjour à tout le monde.
Quelle est votre question, Platini?
Merci beaucoup Tati pour la thématique d'aujourd'hui. Je tiens vraiment à vous remercier pour la fin du jour. Tati, bon, je voudrais quand même faire une petite allusion avant de citer, à poser ma petite question à l'invité, le docteur qui est là-bas aussi avec vous là. Souvent, comme moi, je suis ici dans la ville de Bandaka, chef de la province de l'Équateur. Souvent là, on voit les petits hôpitaux ont écrit lutte contre la tuberculose, lutte contre la tuberculose. Mais jusqu'au preuve du contraire, on n'a pas tellement vu un médicament qui vraiment fait lutte contre la pollution pour cette maladie. Alors moi, j'ai quand même une petite question à poser.
Platini Mbombo me semble qu'il n'est plus en ligne. Désolé pour Platini, mais on a compris un peu l'essentiel de sa question. C'était par rapport au traitement d'un médicament. Docteur Michel Kassoua va revenir par rapport à cela. Jonas Kabinda, vous êtes à Kananga. Bonjour Jonas.
Bonjour monsieur Marcel. Bonjour docteur qui est notre invité.
On vous écoute Jonas. Quelle est votre question?
Oui, la tuberculose, c'est une des maladies qui décime notre pays. En général, et la province de la France en particulier. Bon, j'ai quelques préoccupations à poser au docteur. Quels sont les agents causaux, si je peux dire ainsi, de la tuberculose? Bon, et deuxième préoccupation, il y a beaucoup de gens, quand par exemple, une personne est atteinte de la tuberculose, vous allez voir que les convives et les autres personnes même de la maison commencent à prendre un peu de distance. Donc pourquoi cette indifférence? Et en plus, pourquoi lorsque quelqu'un a de la tuberculose cherche à le mettre en quarantaine? Et que dire, peut-être pour citer, que dire des menuisiers que nous voyons qui sont en contact à tout moment avec de la poussière sans utiliser des appareils ou des instruments pour les protéger? Est-ce que la poussière peut aussi créer la tuberculose? Et elle-même, la tuberculose, est-elle une maladie virale ou c'est dans quelle catégorie de maladie qu'on peut la classer? L'invité va pouvoir me répondre à toutes ces préoccupations. Merci et bonne journée. Radio Capri.
Merci Jonas depuis Kananga. Jirès, vous êtes à Bandundouville. Bonjour Jirès. Rapidement, quelle est votre question Jirès?
Merci beaucoup. J'ai trois petites questions à poser à l'invité. La première question est celle-ci. Existe-t-il un rapport clinique entre la tuberculose et le VIH, parce qu'il me semble que la tuberculose est un des symptômes révélateurs du VIH chez un organisme. Ça, c'est la première question. Alors, la deuxième est celle-ci. Est-ce qu'il y a un régime alimentaire approprié pour quelqu'un qui est sous traitement pour la tuberculose? Et la troisième question, il me semble qu'il existe deux types de tuberculose, donc tuberculose pulmonaire et la tuberculose osseuse. Entre les deux types, quel est le type de tuberculose qui est le plus dangereux? Merci, Jurès, c'est ma capacité Bandundu.
Merci, Jurès, depuis Bandundu. On revient à notre invité, Dr Michel Kassois. Vous avez suivi hein, cette série des questions des auditeurs. On commence avec Hugo, qui nous a appelé de Kananga, qui a cherché d'abord à savoir le rôle de CDT. CDT, c'est des centres de...
Ce sont des centres de santé, de diagnostic et de traitement. Hugo connaît très bien la lutte contre la tuberculose.
Voilà, il demande l'importance de ces centres, et puis il parle de la tuberculose multirésistante. Ici, il y a toujours encore de cas par rapport à cela, et puis quand est-ce qu'on peut savoir que quelqu'un a suivi le traitement, qu'il est complètement guéri?
Je répondrai à Hugo de cette manière-ci. Donc, les centres de santé de diagnostic et de traitement de la tuberculose sont quasiment les unités opérationnelles de la lutte. Ce sont les centres fixes. Donc, ils sont là essentiellement pour le dépistage un peu passif. Donc, ce sont ces centres qui sont installés dans les différentes zones de santé. Chaque zone de santé, le Congo en compte 517 à peu près. Chaque zone de santé comprend 3 à 4 CSDT qui ont pour mission de diagnostiquer la maladie en utilisant la microscopie, en utilisant la radiologie lorsqu'ils en sont dotés. Il y a une différence entre, comme on l'a dit, le dépistage actif, où là, c'est le centre de santé qui se déplace vers la communauté. Donc, les CSDT vont continuer à exister, et au contraire, leur nombre va d'ailleurs s'accroître, de manière à couvrir l'ensemble du territoire national. Pour l'instant, il y en a à peu près 1860, et l'ambition du programme, c'est que d'ici la fin de l'année, nous en comptions 2068. Sa deuxième question est relative à pour savoir qu'est-ce que la tuberculose multirésistante. La tuberculose multirésistante, en fait, c'est une tuberculose qui est où le malade porte des germes. Et ces germes sont résistants aux deux antibiotiques majeurs de la lutte contre la tuberculose, à savoir la rifampicine et l'isoniazine. C'est une forme assez sévère de la maladie, mais qui aujourd'hui se traite, et le traitement aussi est gratuit. D'ailleurs, une des innovations dans la lutte contre la tuberculose, c'est que jadis, le traitement de la tuberculose multirésistance prenait 20 à 24 mois, mais aujourd'hui, avec 9 mois de traitement, on guérit de la tuberculose multirésistante.
Vous avez parlé de la guérison, comment savoir, c'était aussi la question, comment savoir que la
personne
est complètement guérie?
Pour tout malade qui a été diagnostiqué avec la tuberculose, qui prend régulièrement et correctement ses médicaments, et j'insiste, 15 jours après la prise de médicaments, ce malade ne peut quasiment plus transmettre la maladie. Mais la preuve bactériologique de la guérison s'obtient par des examens de laboratoire que nous faisons à la fin du traitement, entre le cinquième et le sixième mois, et justement où nous avons la preuve que, du point de vue microscopique, le crachat ne contient plus de microbes.
Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, le traitement est bel et bien là pour contre la tuberculose, mais pourquoi il y a toujours des cas de tuberculose? C'est aussi une préoccupation. Pourquoi on parle toujours de la lutte contre la tuberculose?
Oui, il y a un de nos auditeurs qui a posé une question et je réponds directement. Je dis, la tuberculose est une maladie infectieuse. Elle n'est pas causée par un virus, elle est causée par une bactérie. Et cette bactérie appartient à la famille des mycobactéries. Donc, c'est une mycobactérie du complexe tuberculosis. Il y a environ 9 sous-espèces dans ce complexe qui partagent entre elles une homogénéité génétique d'environ 97%. Donc c'est une bactérie et comme toutes les bactéries, il y a plusieurs facteurs qui puissent expliquer pourquoi la maladie peut continuer. D'abord, il y a tous ces facteurs extérieurs, la promiscuité, la malnutrition, le stress, le diabète. Donc ce sont ce qu'on appelle des facteurs de risque, l'immunodépression. Et puis il y a les facteurs lui-même liés au germe. C'est que une bactérie a cette capacité de pouvoir produire des mutations. C'est-à-dire, cette bactérie va se transformer pour posséder des caractéristiques qui lui permettent de résister aux antibiotiques. Donc, c'est par rapport à cela que intervient cette prolongation un peu de la lutte. Mais le programme ne s'avoue pas vaincu. Nous continuons à mettre des stratégies, des innovations pour justement prévenir d'abord cette maladie. C'est ainsi que, par exemple, chez tous les enfants qui sont à côté de mères qui souffrent de la tuberculose, ces enfants, nous leur donnons de l'INEH, de l'isoniazide, justement comme médicament préventif.
Préventif.
Parce que ces enfants, si nous ne les prévenons pas, ce seront nos malades de demain.
Et vous avez suivi, il y a Jonas qui a parlé de la quarantaine. Est-ce qu'on met encore les personnes qui souffrent de la tuberculose en quarantaine? Je ne pense pas.
Non, aujourd'hui, ce n'est plus une intervention qui est une approche qui est soutenue au niveau mondial.
Hein. Il n'y a pas
puisque aucun... les médicaments sont disponibles. Au contraire, nous, ce que nous préconisons, c'est le diagnostic précoce.
Oui.
Voilà, pour moi, c'est l'opportunité de rappeler que toute personne qui tousse, là, nous sommes ici dans le studio. Vous qui nous suivez, vous êtes dans les bus. Vous êtes au bureau, vous êtes à l'école, vous êtes au marché. Regardez à côté de vous. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui tousse. S'il vous plaît, encouragez cette personne à visiter le centre de santé le plus proche. Plus tôt il arrive, plus tôt nous allons le dépister.
Il ne faut pas attendre 15 jours.
Non. Jadis, on disait, aujourd'hui je dis tout. Quelle que soit la durée, quelle que soit l'intensité, peut cacher une tuberculose. Donc, venez au centre de santé. Là, vous trouverez un personnel qui est formé, qui pourra vous prendre en charge. Et si la tuberculose est présente, vous aurez accès aux médicaments.
Alors rapidement, docteur, aussi, ces trois questions. Est-ce qu'il y a un lien entre la tuberculose et le VIH-SIDA? Et puis, il y a un régime alimentaire. Et puis, quelle est la tuberculose la plus courante entre la tuberculose pulmonaire et la tuberculose osseuse?
Oui, bien entendu qu'il y a un lien entre la tuberculose et le VIH. Le virus d'immunodéficience, comme le nom l'indique, va diminuer toutes les défenses naturelles. Étant donné que toute personne née au Congo est susceptible, porte en lui le microbe de la tuberculose, même si elle n'est pas malade. Donc, le VIH, en diminuant les défenses naturelles de l'organisme, favorise l'éclosion de la tuberculose. Et, mais de même manière aussi, pour toute personne qui a la tuberculose, étant donné que c'est déjà une maladie infectieuse qui atteint aussi les cellules de défense de l'immunité, celle-ci peut aussi accélérer le VIH. Voilà pourquoi ce couple-là, tuberculose et VIH, nécessite une prise en charge vraiment particulière. Pour tout malade qui se présente dans un centre de santé qui est dépisté pour le VIH, nous conseillons que rapidement nous puissions connaître son statut VIH. En effet, s'il s'avère qu'elle est positive pour le VIH, elle doit commencer directement le traitement des deux maladies. De l'autre côté aussi, pour toute personne vivant avec le VIH, à chaque contact avec le système de santé, le prestataire de soins est obligé de rechercher activement la tuberculose. Si tel est le cas, il doit aussi donner le traitement contre la tuberculose. Sinon, on va le mettre sous un traitement préventif contre la tuberculose.
Il a un régime alimentaire pour...
Non.
Il n'y a pas de régime alimentaire.
Pas de régime alimentaire particulier, mais il est conseillé que l'individu garde une alimentation bien équilibrée.
Tuberculose pulmonaire, tuberculose osseuse?
Effectivement. En fait, nous distinguons deux types de tuberculose. Il y a des types de tuberculose qui sont dites respiratoires et des tuberculoses qui sont non respiratoires. Et les tuberculoses osseuses, justement, font partie des tuberculoses non respiratoires. Dans les tuberculoses respiratoires, là, vous avez les tuberculoses pulmonaires et puis vous pouvez avoir d'autres types de tuberculose qui atteignent l'appareil respiratoire.
Mais la plus courante, c'est la tuberculose
pulmonaire. Tout à fait. Pulmonaire. Plus de 75% des cas de tuberculose sont des cas de tuberculose pulmonaire.
Docteur Michel Castro, on revient à vous, le temps de d'accueillir trois autres auditeurs rapidement qui sont en ligne. Kassongo qui nous appelle de Bandounouville, Dieudonné qui est à Arou et puis Kachai qui est à Kanyoka. Kassongo, vous êtes à Bandounouville, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour Radio Capi, bonjour à l'invité.
Mais rapidement, Kassongo, votre question, directement votre question.
Oui, je salue encore une fois, messieurs les directeurs, mais quand il parle de véhicule mobile,
oui,
c'est juste le DA, le dépistage actif. Et c'est une bonne chose parce qu'il a dit, c'est préconiser le diagnostic précoce. Ça, c'est mieux parce que quand la maladie a déjà éli domicile le corps de quelqu'un, c'est plus facile pour le traitement.
Oui.
Mais il y a quelque chose qui fait trop mal.
Oui.
Parce qu'il parle à la radio, mais par rapport à la population congolaise aujourd'hui, les gens s'intéressent à la télévision, les gens s'intéressent au téléphone. Eux sont les gens qui veulent bien suivre la radio. Et en ce moment ici aussi, telle que l'émission se passe là, beaucoup sont au travail, champêtre, travail de bureau, il y a peu de personnes qui suivent aussi la radio.
Oui.
Alors, à quand la sensibilisation par les bureaux centraux, comme ils font pour certaines pathologies, les GNV, la trypanosomiase humaine africaine, à quand?
D'accord.
Jusque-là, même dans le niveau du village là-bas, les gens ne connaissent pas qu'il y a cette maladie, cet amaigrissement, c'est dû à la tuberculose, quelle que soit la forme.
Merci.
Merci
Kassougou. On va l'invité va répondre à votre question. Merci d'avoir appelé de Bandounouville à Dieudonné. Vous êtes à Arou. Bonjour Dieudonné. Dieudonné, vous êtes en ligne depuis Arou. Dieudonné n'est plus en ligne. Et Kachai, vous nous appelez de Kanyoka. Bonjour Kachai.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à notre invité du jour.
Alors quelle est votre question par rapport à ces sujets sur la tuberculose? Qu'est-ce que vous avez à poser comme question?
Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Avant de soumettre à l'appréciation de l'invité de préoccupation, quelques commentaires à faire là-dessus. Dans certains milieux où nous vivons, nous vivons avec certains tuberculeux qui ont développé cette maladie suite à différentes causes que je ne sais pas commenter par rapport au mode de vie qu'ils sont en train de mener. Mais j'ai observé une chose selon laquelle quelqu'un qui est tuberculeux, quand il pousse, il fournit du sang en boule. Ce sang-là en boule, vraiment, vous voyez comme si c'est une personne qui a été atteinte de la maladie, ça fait si longtemps et qu'il n'a pas suivi un traitement efficace, permanent, régulier, pour pouvoir lui permettre à pousser la guérison.
Oui.
Alors, deuxièmement, c'est un problème lié au mouvement insurrectionnel comme on a son coup. Les gens, les déplacements massifs des populations ont fait en ce que les gens puissent être atteints non seulement de la tuberculose, mais aussi des autres maladies liées à l'encombrement des personnes qui habitent dans une petite ville, une case qui dépasse. Les préoccupations sont des chiffres.
Oui, rapidement, vous avez déjà mis du temps. Rapidement, deux questions, si vous avez d'autres, que rapidement, oui.
Oui. Est-ce que, comment on peut efficacement lutter contre la tuberculose pendant que nous vivons avec les gens dans une même maison? Et oui. Qu'est-ce qui fait parce que, par exemple, les femmes des tuberculeuses ou les maris des tuberculeuses ne sont pas atteints de la maladie de tuberculose? Merci beaucoup.
Merci à Kachai depuis Kanyoka. Dr Michel, vous allez répondre d'abord à Kassongo qui a parlé d'intensifier le dépistage, notamment au niveau de bureaux centraux, qui voulait parler de bureaux centraux. Il a dit c'est bon de le faire aussi à la radio, mais c'est à la télé, c'est bon, mais il faut plutôt à sensibiliser davantage sur le terrain. Et vous avez également suivi ces deux préoccupations de Kachai qui est revenu toujours par rapport à la sensibilisation. Il semble qu'il y a des personnes qui ont la tuberculose, mais dont les sont qui ne sont pas prises en charge.
Merci Marcel. Pour lutter efficacement contre une maladie, il y a un ensemble d'interventions qui sont mises en œuvre.
Oui.
Certaines sont liées à l'amélioration, bien sûr, de l'offre et de la qualité des services, pour qu'on s'assure que toutes les personnes qui sont en train de rechercher les soins ont des soins adéquats. Mais aussi, il y a des activités liées à la sensibilisation, à la mobilisation sociale, pour inciter à plus de participation communautaire dans la lutte. Donc, ces dernières années, il faut dire que la sensibilisation n'a pas reçu suffisamment d'attention ni de moyens de la part des différents bailleurs de fonds pour qu'elle puisse se poursuivre. Nous avons fait du très bon travail et aujourd'hui, nous nous disons que la tuberculose ne revêt plus ce caractère qui, jadis, était stigmatisant. Donc, nous allons recommencer cette sensibilisation, surtout comme il le dit très bien, au niveau des bureaux centraux des zones de santé, pour s'assurer qu'au-delà des bureaux centraux, nous arrivons même jusqu'au niveau de différentes aires de santé que compte ce pays. Notre pays a environ 8000 aires de santé, donc il faut s'assurer que la lutte arrive jusqu'à ce niveau-là, les messages de la lutte arrivent jusqu'à ce niveau-là et que toute personne peut aujourd'hui être capable de reconnaître les symptômes de la maladie et de savoir comment y lutter. Alors, il a posé une question par rapport justement à la destruction massive du parenchyme pulmonaire qui peut expliquer. Il a tout à fait raison. Plus la maladie va durer et que le malade ne sera pas dépisté, plus la destruction des cellules pulmonaires sera importante, ce qui explique aussi le fait que l'individu va cracher beaucoup de sang. Donc, je reviens sur le message clé, c'est le dépistage précoce pour avoir accès au traitement. Le traitement, non seulement va va procurer la guérison à la personne qui prend les médicaments, mais va surtout interrompre la chaîne de transmission.
Et lorsqu'on commence le traitement, qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens disent que des fois on a peur pour une personne qui a la tuberculose, mais lorsque la personne commence le traitement, il n'y a plus à...
Comme je l'ai dit, dès que la personne commence le traitement et le traitement est correctement conduit, il n'y a plus de risque de pouvoir transmettre la maladie.
Alors, cette dernière question, docteur, c'est le 24 mars prochain, c'est la journée mondiale, là, lutte contre la tuberculose, est-ce qu'il y a des activités en vue?
Bien entendu, comme chaque année, nous allons célébrer la journée mondiale de lutte contre la tuberculose le 24 mars prochain. Et cette année, le concept de base, c'est le dépistage actif. Donc, amener les soins de santé au plus proche de la population et capitaliser l'événement de la journée mondiale pour ne pas simplement lutter ce jour-là contre la tuberculose, mais lutter aussi contre toutes les autres pathologies qui sont proches de la tuberculose, notamment le VIH, le paludisme, faire des dons bénévoles de sang. Donc dans les jours qui viennent, aussitôt que nous avons toutes les autorisations des autorités, nous allons passer pour communiquer les concepts qui vont accompagner la journée du 24 mars.
Voilà, docteur Michel Cassois, je rappelle que vous êtes directeur du programme national de lutte contre la tuberculose en RDC. Vous étiez notre invité pour parler de comment lutter efficacement contre la tuberculose en RDC. C'est un vrai plaisir de vous avoir dans ces studios. On espère vous retrouver prochainement.
Merci Marcel et à bientôt.